Avec vous, puisque en fait c'est les premières fois où ils participent, donc ils ont découvert, vous leur avez donné les codes. Est-ce que pour eux c'est il y a un échange qui laisse entendre qu'ils vont s'inscrire dans la durée pour les prochaines saisons à venir? Comment ils ressentent un petit peu cet échange que vous installez entre vous et eux?
Dans le groupe, donc notamment de des ados qui étaient avec nous pour le groupe qui venait avec Pierre Loquet de Saint-Michel, donc un certain nombre avaient déjà participé l'an passé au choix des films. Donc ils savaient à peu près comment ça se passait. Donc on leur a passé donc un certain nombre de bandes annonces. On leur a expliqué un petit peu le film. Donc ils ont pu faire leur choix déjà sur ces bandes annonces là. Je sais qu'il y a certains qui les avaient déjà vus auparavant. Je dirais à domicile avec les différents animateurs.
Ils se prennent facilement au jeu, on sent que ça leur plaît.
Oui, il n'y a aucune difficulté.
Ouais, en fait, le cinéma, je pense que c'est quelque chose qui les touche et qui leur parle. Et donc, en effet, il n'y a pas. En fait, le lien, il se fait facilement par ce billet-là. Et en fait, l'envie de poursuivre sur les prochaines années, il vient d'eux, principalement, parce qu'en fait, la plupart nous disent vivement l'année prochaine pour qu'on.
Oui, ils sont déjà dans la projection.
Ça, c'est top. Non, c'est. Pardon.
et justement. On voit aujourd'hui que ce principe de co-construction se développe dans différentes formes de programmation. C'est quoi l'intérêt justement, si on regarde de façon plus globale, ce principe de co-construire avec la population? Est-ce que justement ça répond à des nouvelles attentes? Est-ce que ça permet surtout de détacher un petit peu les publics des nouveaux modes d'utilisation qui peuvent être parallèles? Est-ce que c'est aussi un moyen d'intégrer le côté citoyen à de la programmation? Comment vous voyez justement le développement de cet esprit de co-construction?
Je pense qu'en fait ça part aussi du fait de maintenant vouloir partir des envies du public. L'objectif de co-construire cette programmation avec eux, c'est aussi de les impliquer et qu'ils se sentent, en tout cas que ça leur parle, quoi. Que ce soit une envie de leur part et que ce soit pas juste quelque chose qu'on leur propose.
Et de répondre davantage à leurs attentes.
Et les impliquer, c'est aussi une forme pour eux, de se sentir au cœur du projet et de pouvoir le porter aussi auprès d'un public plus large.
Oui, parce qu'ils en comprennent mieux, finalement, les tenants, les aboutissants, les contraintes, parce qu'il y a quand même un aspect qui me semble assez essentiel dans la façon dont vous travaillez avec eux, notamment dans les propositions que tu fais, Denis, c'est qu'on est sur quand même... tu disais, Laura, on part aussi des gens pour construire avec eux, et on n'est pas seulement prescripteur à dire, il y a ça qui est bien regardé, mais il y a quand même une proposition, parce que c'est aussi notre rôle en tant que spécialiste de pouvoir leur proposer d'autres choses que peut-être ce qu'ils verraient quand c'est rediffusé en télévision ou en cinéma plus commercial, mais ça permet aussi de les ouvrir à un autre champ tout en leur montrant qu'il y a d'autres possibles et qu'ils se les approprient. C'est un peu ça aussi l'idée, non, Denis? Je te vois pas, pardon.
Oui, c'est d'abord garder l'idée que ça doit être un événement collectif.
Ouais.
Donc c'est le collectif qui prime. C'est pour ça que les différents partenaires donc ont à cœur aussi de proposer des animations. Ça peut être des jeux, ça peut être aussi un repas partagé. Il y a bien sûr donc l'application des adolescents dont on a parlé. C'est le fait aussi qu'on demande aussi qu'ils puissent diffuser avant le film principal une bande-annonce, ou ça peut être aussi un récit d'un moment de vie qu'ils ont passé avec au sein des associations. Ça peut être un petit voyage qu'ils ont fait ensemble et dont ils veulent nous raconter un petit peu l'histoire. Et puis, bien sûr, c'est aussi... Moi, je vais leur demander de pouvoir présenter le film à chaque fois.
Ah, ça aussi, c'est la petite nouveauté, alors. Parce qu'auparavant...
Non, on l'avait fait l'an passé aussi.
D'accord. Parce que c'est vrai qu'on a aussi coutume de vous voir introduire à chaque fois la soirée avec la présentation du film, de son auteur. Mais le fait de les inviter à prendre la parole devant les publics, ça installe encore et ça prolonge le lien au-delà de l'aspect préparation. On est dans la continuité.
C'est ça, c'est ce que disait Nadège tout à l'heure. On n'est pas seulement organisateur, prescripteur. On veut que tout le monde participe à l'événement.
Et donc chaque année, il y a une belle programmation, mais est-ce que vous vous imposez, alors tout à l'heure tu le rappelais Denis, il y a des codes précis qui vont être les droits de projection, un catalogue qui va avoir une certaine quantité, des titres référencés qui vont limiter le champ, mais est-ce qu'au-delà de tout ça, vous avez aussi envie de donner des thématiques ou une ligne artistique, entre guillemets, ou c'est plutôt difficile à imposer justement ce principe si on mélange les suggestions de part et d'autre, ça reste possible ou c'est plutôt compliqué de mettre en place une ligne éditoriale?
C'est possible, mais ça demande un peu plus de travail. Peut-être qu'on le fera l'année prochaine. De travailler un petit peu plus une thématique. Moi, pour la sélection 2026, donc j'ai plutôt axé sur des nouveautés.
Bien sûr.
Et je pense que ça se travaille sur la durée aussi. C'est pas en un one shot qu'on peut créer ça. Ça se travaille sur la durée. Mais l'objectif, oui, c'est d'en créer, d'avoir une identité artistique qui puisse se distinguer de cet événement-là.
Alors, tout à l'heure, j'évoquais le détail de la programmation. Il y aura aussi des choses à évoquer. Je ne sais pas si vous aurez envie de l'aborder avant ou après le détail de la programmation, mais il y a aussi des nouveautés dans la forme, puisqu'il y a des nouveaux lieux qui sont mis en avant. Est-ce que vous voulez commencer par évoquer ces nouveautés ou plutôt le détail de la programmation pour donner un petit peu l'envie et susciter l'intérêt des gens qui nous écoutent dans l'émission?
On peut commencer par parler des lieux, je dirais, un petit peu habituels.
Oui.
Donc, comme l'an passé, on aura une séance dans la cour de l'école Rochereuil, dans le quartier de Saint-Michel.
D'accord.
Qui est un espace qu'on a testé l'an passé, qui nous convient tout à fait, qui est vraiment très, très large, qui est bien accueillant. À Netreville, on n'ira pas sur la place Suffren comme les années précédentes, mais plutôt du côté de la maison de quartier de Netreville.
D'accord.
Rue Duguay-Trouin, sur l'espace vert qui se trouve tout à côté de la maison de la culture. Ça, c'est une demande de la L2E.
C'est très bien.
Qui nous a demandé de pouvoir changer de lieu. Après, sur la Madeleine, donc c'est plus classique, c'est la place Kennedy à côté de la maison de quartier. Navarre, ça reste donc la cour de l'école élémentaire.
D'accord.
C'est aussi qu'on teste depuis quelques années. Et enfin, une nouveauté. Là, peut-être, Laura, peux-tu nous en parler?
On clôturera cette année le 28 août dans le parc Saint-Louis avec un film, je peux le dévoiler, qui s'appelle donc Le Tableau Volé, qui est une comédie dramatique. Et on a donc sélectionné ce film en écho à la Biennale d'art contemporain qui a lieu jusqu'en septembre. Et donc, comme deux œuvres sont installées dans ce parc Saint-Louis, il nous a semblé opportun de pouvoir proposer aussi une séance de ciné plein air à cet endroit-là.
Oui, puis l'espace en lui-même se prête totalement à faire découvrir et à profiter de ce lieu à tous les publics. C'est vraiment un bel espace. Je pense que cette diffusion aussi va prendre tout son sens entre les œuvres qui sont proposées et la diffusion de cette projection.
Tout à fait.
Est-ce que Denis, toi, tu voulais revenir aussi un petit peu en détail sur les titres proposés dans votre sélection?
Oui, bien volontiers. Donc le 10 juillet, donc la légende d'Oshi, c'est un film d'aventure, un film d'animation, donc qui est réservé à un public plutôt familial.
À Saint-Michel, donc.
À Saint-Michel, voilà.
Le 17 juillet, 4-0. Pour apprécier cette comédie sociale et humaine, qu'il n'est pas nécessaire de s'y connaître en football, ni d'avoir vu 3-0 auparavant. Le quatuor Nanty, Lanvin, Bourdon et Deby fonctionnent à merveille pour séduire un large public.
Donc à Netreville, le 17 juillet.
À Netreville, voilà. Là, on est dans la thématique du moment, en plus, de la Coupe du Monde.
Le 4 août.
À la Madeleine.
Donc, c'est l'histoire. De Hadja, 18 ans, qui brûle du désir de vivre intensément. Elle cherche sa voie entre sa meilleure amie influenceuse, qui brille sur les réseaux sociaux, et son footballeur de grand frère, qui sature tout l'espace de réussite familiale. Inattendu que lui propose la ZAD, la zone à défendre, installer la limite de son quartier la tire. On va s'enchaîner après toute une série d'aventures qui la concernent. Donc un film vraiment très, très, très attachant d'Émilie Carpentier. Ensuite, le 26 août...
À Navarre.
Donc, Campio et Anaïs annoncent leur mariage à leurs amis, c'est clair. Ce sera sans enfants. 3 jours de fête et de prosecco en perspective.
Ouais. C'est un programme.
Je crois que Nadège va être invitée.
Ah bon?
Mais quand leur bande de potes débarque avec les enfants, pensant pouvoir les cacher aux mariés, les catastrophes vont très vite arriver. Donc je ne vous en dis pas plus. Donc on vous donne rendez-vous l'été qui va venir, en juillet et en août, pour voir tous ces merveilleux moments. Donc à la nuit tombée, vers 21h30.
Eh bien, écoutez, le rendez-vous est pris d'ores et déjà. Donc, on invite le public à découvrir dans le détail donc, le programme de cette nouvelle saison des ciné-plénaires. Vas-y, je t'en prie, Denis.
On peut remercier à l'avance donc, les adolescents qui ont participé au groupe.
Mais bien sûr.
Remercier nos différents partenaires. On les a associés tout le long de ces derniers mois à ce travail de préparation. Donc, voilà.
Donc on retrouve toutes les informations donc,
sur culture.evre.fr.
Voilà.
Et puis il y a une petite carte postale assez sympa, une affiche qui circule avec toutes les dates de l'été, tous les films et les lieux.
Eh bien voilà, le rendez-vous est pris. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler.
Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Nous recevons Laurent, donc référent musique à la médiathèque Roland Plaisance, gestionnaire de collection au sein du réseau des médiathèques et assistant de programmation, qui est présent donc dans cette rubrique coup de cœur. Alors avant de démarrer sur ton coup de cœur, notamment le livre Au cœur de la country, légendes et phénomènes de Clovis Gou aux éditions Cherche Midi, tu peux nous dire s'il te plaît en quelques mots pour le titre qu'on vient d'entendre à l'instant, Jolene de Dolly Parton, pourquoi tu l'as choisi pour introduire en fait cette rubrique coup de cœur sur lequel on va échanger autour de Clovis Gou, s'il te plaît.
Alors parce que j'adore Dolly Parton évidemment, et puis aussi parce que c'est une des figures féminines fortes qu'on trouve dans le livre de Clovis. La thématique de la représentation des femmes sur les scènes, elle est très présente aujourd'hui. Hein, c'est un problème qui a toujours pas été réglé. Quand on voit comment Dolly Parton a pu imposer des thématiques, a pu incarner à elle seule la country en tant que nana dans un milieu largement dominé par le genre masculin et extrêmement macho. Hein. Faut pas rêver, le rock et la country sont des milieux très très masculins. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et puis, elle a tout, Dolly Parton. Elle a tout. Enfin, la voix, les thématiques. Je la trouve extraordinaire, Dolly Parton. Et aujourd'hui... ces thèmes et ces textes sont toujours d'actualité, plus que jamais même. C'est l'étoile de la country. Si j'en citais qu'une, ce serait elle. C'est une étoile de la country et elle est toujours vivante aujourd'hui et voilà.
Et comme tu dis, d'actualité, puisque elle a travaillé sur le dernier album de Beyoncé autour de la country notamment. Donc de la country, il en est question donc dans cette rubrique aujourd'hui. Il faut préciser, Laurent, que donc tu interviendras jeudi prochain, le jeudi 25 juin à 18h30 au Cube dans le cadre du partenariat avec le Cube et le réseau des médiathèques dans le cadre des jeudis juin. Précisément, qu'organise le Cube tous les jeudis de juin et le premier week-end de juillet et le premier jeudi de juillet de cette année. On rappelle brièvement pour nos auditrices et auditeurs que les jeudis juin sont des soirées gratuites organisées par le Cube depuis plusieurs années, qui proposent en terrasse des DJ sets, concerts, music market, conférences, entre autres, avec apéro et food truck. Et donc, ce jeudi, le jeudi 25 à 18h30, tu nous proposes une rencontre-échange avec Clovis Gou autour de son livre, comme on le disait, Au cœur de la country, légende et phénomène. Avant d'aborder ce livre qui parle, comme on a pu démarrer cette rubrique, qui parle de la musique country, donc à toi personnellement, c'est quoi ton lien personnel avec la musique country? Comment et quand tu as découvert cet univers musical et dans quel contexte exactement?
Alors j'oserais dire Elvis Presley. Il y a aussi le chanteur qui m'a le plus fasciné. Alors Elvis Presley, pas forcément associé à la country, mais qui m'a le plus fasciné, que j'écoute toujours aujourd'hui avec autant d'intérêt, c'est Elvis Presley. Elvis Presley, c'est ce musicien convergent qui a hérité à la fois de la culture blanche, de la country, qui même si elle vient du blues et de la communauté afro-américaine, c'est une musique qui est associée à tort, hein, en partie, et ça on le verra jeudi avec Clovis, à la communauté blanche, et puis les rythmes afro-américains du rhythm and blues. Donc sans Hank Williams par exemple, qui était la presque une star du rock and roll avant l'heure, hein, qui était un grand chanteur de musique country, il y aurait pas eu Elvis Presley. Donc moi, mon rapport avec ces musiques là évidemment, il est très fort. J'adore la musique de l'entre-deux-guerres aussi, parce que je trouve, bon, ça c'est complètement personnel, je trouve qu'il y a une pureté stylistique là-dedans. Les années 30, c'est le début de l'industrie du disque, c'est un petit peu avant, et du coup l'industrie du disque a pas encore trop formaté les artistes. Et moi, ce côté, cette musique qui vient vraiment de la terre et du fond de la solitude du cœur humain, comme le blues, pour faire des mots compliqués, c'est vraiment des musiques qui me touchent. Par exemple, j'adore, si vous connaissez Alan Lomax, qui était ethnomusicologue, qui a enregistré tout un tas de gens dans le sud des États-Unis, puis après en Europe, en Afrique du Nord et dans les Caraïbes. Il a enregistré les gens vraiment dans leur environnement, quoi, qui est un environnement profondément campagnard. Il y a quelque chose de pur, c'est pas lissé, c'est pas de la pop scintillante, c'est les pieds dans la terre, la tête dans les étoiles, pour moi, la country.
Alors justement, donc un digne représentant pour valoriser cet univers country, on en parlait, c'est Clovis Gou que tu vas donc avec lequel tu vas échanger le jeudi 25. Est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots cet auteur, quel est son parcours exactement?
Alors Clovis Gou, pour faire très très court, hein, c'est un auteur dont je ne connaissais que le nom avant de lire Au cœur de la country. D'ailleurs, je vais me précipiter cet été pour acheter ses romans, parce qu'il écrit très très bien. C'est un journaliste indépendant qui est aussi patron de label. Donc évidemment, c'est un fan de ces musiques-là. Dans une interview, il nous dit d'ailleurs qu'il a découvert la country grâce au cinéma. Et c'est un écrivain, donc il héberge sur son label quelques artistes, hein, dont Tristesse Contemporaine, d'ailleurs, que tu aimes beaucoup, je crois, Frédéric. C'est écrit, c'est-à-dire que moi, je vais pas faire la bio de Clovis Gou, mais c'est avant tout un écrivain, quoi. C'est-à-dire que moi, la notion de le mot biographe ou le mot documentaire musical, moi, je trouve que c'est des gros mots. Qu'une œuvre, ça doit être littéraire. Quand on parle de musique, on doit le faire de manière littéraire et poétique. C'est le cas avec Au cœur de la country, et on retrouve l'esprit d'indépendance et puis la dimension subversive de Clovis dans son ouvrage. Moi, j'ai adoré. Hein. C'est un ouvrage qui fait un peu plus de 100 pages, un petit format. J'ai compris plein de choses sur la country que j'avais pas compris avec des gros livres, avec tout un tas de livres plus ou moins universitaires qui racontaient l'histoire de cette musique-là. J'ai compris plein de choses, c'est drôle, c'est l'œuvre d'un littéraire, c'est l'œuvre d'un écrivain, et pas seulement quelqu'un qui documente la musique.
Et donc justement, ça reste un livre accessible, c'est un livre qui va être dans un esprit qui va s'adresser à tout un ensemble de public finalement. C'est pas une encyclopédie comme on pourrait des fois imaginer certains documentaires, mais lui en même temps en tant qu'écrivain il rajoute ce côté authentique et il l'accompagne de références. Comment tu distinguerais justement son approche par rapport à d'autres auteurs? Ça reste une approche vulgarisée pour tous les publics ou c'est plutôt assez pointu?
C'est les deux, mon capitaine, pour faire une réponse qu'on n'est pas vraiment une. Je pense que, alors c'est difficile, parce que moi comme je suis un fan de musique américaine, surtout de l'entre-deux-guerres, c'est difficile pour moi de dire, c'est un peu prétentieux ce que je dis, mais est-ce que ça s'adresserait à un public de lecteurs non initiés pour ces musiques-là? Moi j'ai envie de dire oui, parce que c'est très écrit, et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure... Il raconte son histoire, son lien, lui, avec la country, Clovis Gou, dans ce livre-là. Des livres sur la country, il y en a eu plein. Des livres sur le blues, il y en a eu plein. Lui, il raconte son histoire à lui, ce lien personnel. Alors, évidemment, c'est très documenté. Mais voilà, c'est son histoire de la country qui nous raconte. Quelle histoire de la country.
Et cette histoire, donc, qui t'a touché personnellement à travers ce livre, tu pourrais nous détailler un petit peu cette sensibilité qui t'a traversé avec ce livre, un petit peu plus. Qu'est-ce qui t'a le plus touché dans ce livre, ou de manière générale, ou plutôt peut-être dans son approche?
Alors, bon, l'écriture, hein, comme je disais tout à l'heure, évidemment, moi j'aime que les choses soient bien écrites, et ce livre-là, il donne pas seulement envie d'écouter de la country, il donne envie d'écrire. Alors, il écrit tellement bien que le Clovis Gou. Je réfléchis un petit peu à cette question. Moi, ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est qu'il y a plein de choses que j'avais pas compris sur la country. Je vais faire une réponse courte, ce qui est pas du tout mon genre. C'est que on sent que c'est une musique qui console et qui désole à la fois. C'est ces espèces, ces destins de perdants magnifiques. Je pense à Hank Williams qui est mort dans sa voiture dans des conditions abominables. Pour la plupart, les hommes en tout cas sont une majorité de gens alcooliques et violents. C'est des destins comme Johnny Cash qui sont terribles, avec un frère qui a été coupé en deux dans une scierie. Il y a cette espèce de gens qui sortent du caniveau, quoi. Enfin, mais en même temps, c'est très américain. Et qui vont faire des chansons absolument magnifiques, quoi. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que, et ça aussi c'est très américain, c'est qu'il y a Dieu et il y a le diable, quoi, dans les chansons. C'est-à-dire, tout est toujours un peu double, quoi. Et il appuie vachement là-dessus, Clovis Gou. C'est-à-dire que c'est de l'émotion, il y a une forme d'universalité, c'est-à-dire que plus on parle de soi quand on le fait bien, plus on s'adresse à un grand nombre, il y a cette dimension universelle, puis ce côté, c'est la boue et l'or, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment des destins. On en parlera, hein, jeudi le 25 juin à 18h30 au Cube. C'est quand même, c'est des vies. C'est pas des gens qui ont grandi sur des lits de roses, quoi. Et leurs chansons, elles sont magnifiques. Et cette vie extrêmement obscure, très sombre, de cette vie-là, ils vont aller chercher la lumière dans les ténèbres avec leurs chansons, quoi.
Bah écoute, tu nous donnes vraiment envie en tout cas d'assister à cette rencontre. On va pas détailler plus puisque on va faire en sorte que le public puisse découvrir aussi tout tout cet échange que tu vas mener avec Clovis Gou, si on devait comparer à des précédentes rencontres, échanges que tu as pu avoir avec des auteurs sur le réseau des médiathèques ou hors les murs avec le Cube, comment tu t'envisages cette rencontre ou dans la forme ou dans le fond, hein, mais est-ce que tu as une approche un peu différente ou tout simplement tu vas garder la même recette?
Alors non, je vais changer un peu la recette parce que l'idée c'est quand même d'essayer, non seulement pas de renouveler les challenges, là encore ce serait prétentieux, de faire un format court. J'ai tendance, ça c'est mon gros défaut et je le connais, et à faire des interviews, à préparer des tartines d'interviews, c'est ce qui s'est passé avec Solo, hein, aucune dans le partenariat avec le Cube. Je vais essayer de faire un format très court, et aussi parce que les jeudis juin c'est un esprit de fête, et que même si la musique elle se pense, bon, on va pas faire une rencontre d'une heure et demie sur l'histoire de la country, même si c'est très intéressant. Je vais faire un truc très court, pas comme la réponse que je viens de vous donner. Laisser plus de place peut-être aux questions du public, c'est ce qui est intéressant aussi quand on a en face de nous les spécialistes, journalistes, écrivains en face de nous, c'est que le public puisse poser des questions et revenir. Oui, voilà, un format de 45 minutes maxi sur le traditionnel exercice question-réponse avec Clovis, c'est bien, et puis laisser libérer la parole pour le public qui a envie de poser des questions et compléter la rencontre avec ça. Donc c'est plutôt là-dessus que je vais, enfin voilà, essayer d'être plus concis parce que c'est pas ma spécialité de poser des questions précises et puis pas éviter les questions bateau, parce que pour les, je pense pour les initiés de la country, c'est pas la peine de refaire l'histoire complète de ce genre-là. Et puis je crois que pour les curieux, c'est intéressant de l'aborder dans sa dimension subversive, quoi, c'est-à-dire de raconter l'histoire qui a pas été racontée, celle que Clovis Gou raconte, pas celle que je ne sais quel journaliste du New Musical Express ou Drakenfolk a déjà raconté 50 fois, quoi.
Eh bien, en tout cas, ça nous donne vraiment envie d'assister à cette soirée. Pour conclure sur justement la tonalité de cette soirée autour de la country, on précisera que cette rencontre sera suivie d'un concert du combo rouennais The Mary Hay Family Band et d'un DJ set d'Anne Polly, autrice et DJ, fan de Dolly Parton. Et puis donc, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas non plus. Ce sera peut-être l'occasion pour vous de pratiquer un cours de line dance, qui sait, on verra bien. Voilà, on va se quitter avec un extrait que tu as choisi de Chris Christopherson qui s'appelle Casey Lestrade. Quelques mots sur ce choix?
Comme une belle chanson vaut plus qu'un long discours, dans le livre de Clovis, alors moi j'adore ce titre, hein, que j'ai découvert dans la musique du film J'ai toujours rêvé d'être un gangster, que tu aimes beaucoup aussi. Il est cité comme le plus beau morceau du monde. Et c'est pareil, c'est un morceau qui a été chercher la lumière dans les ténèbres. Et j'avais très à cœur de vous le faire écouter ou réécouter pour ceux qui connaissent déjà. Et puis je vais terminer avec ça. C'est sur une proposition de Fanny Corral, la directrice du Cube, que j'aurai le privilège et la chance d'animer cette rencontre avec Clovis Gou. Et je le remercie.
Et ben voilà, ça c'est dit. Simplement, on va redonner le nom de ton livre coup de cœur de Clovis Gou qui s'appelle Au cœur de la country, légende et phénomène. C'est aux éditions Cherche Midi. Et on écoute un extrait de Chris Christopherson, Casey Lestrade. Merci Laurent.
Merci à toi. Merci à la bibliothèque.
Casey joins the hollow sound of silent people walking down the stairway to the subway in the shadows down below. Following their footsteps through the neon darkened corridors of silent desperation, never speaking to a soul. Poison air he's breathing has the dirty smell of dying, 'cause it's never seen the sunshine and it's never felt the rain. But Casey minds the arrows and ignores the fatal echoes of the clicking of the turn.
turnstile. Et bien voilà, c'est sur cet esprit country qui vous donne rendez-vous le 25 juin donc au Cube en présence de Clovis Gou et Laurent qu'il ne faudra pas rater à 18h30 et ça fait partie donc des trois rendez-vous à retenir pour clôturer cette émission de Biblio Plus Plus. Le deuxième rendez-vous, ne pas manquer, Nadège, ce sera
tous les ciné plein air dont on a parlé tout à l'heure, du 10 juillet au 28 août dans les différents quartiers évreux. Programme à retrouver sur culture.evreux.fr.
Et puis le village du sport et de la culture au parc de Trangis du 18 juillet au